Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bon, merci d'être venu les gars, c'est cool. Le camion arrive dans 8 heures.
Non mais ça va aller vite là, t'as quoi? T'as deux armoires, un bureau.
Ouais.
Commence par quoi?
Petite bière?
Petite bière.
2021 aura été placé sous le signe des tests Covid, mais aussi des cartons. Il y avait du déménagement dans l'air. Il faut dire que les taux d'intérêt sont restés très bas et ont incité les Français à se lancer dans l'aventure du déménagement, traité ici avec humour par le Palmachot. Ça chauffe au rayon immobilier, un peu trop d'ailleurs au goût de la Banque de France. La fête serait-elle finie pour les emprunteurs ?
Non !
Non !
Non !
Non !
Non !
Oui ?
Oui ?
Oui !
Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% ?
Oui !
Et m'endetter pendant 25 ans ?
Oui !
Vous me prenez vraiment pour un con ?
Oui !
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Tous les jours, la rédaction du journal se met à votre service pour décrypter et analyser un sujet qui fait l'actualité économique, financière ou sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser au crédit immobilier en se demandant s'il ne conviendrait pas de freiner un petit peu la frénésie des Français pour la pierre.
Les prix de vente moyens, maison-appartement, sont très différents. Si vous permettez, comme j'ai une mémoire de moineau, je vais prendre ce petit document pour
vous dire précisément... C'est vrai que ça ne fait que 40 ans que vous faites ce métier.
Que le prix de vente moyen, il change tout le temps, le prix de vente moyen, a augmenté de 7% pour les maisons en 2021 et s'établit à 2355 euros. Et pour un appartement, il augmente de 5,3% et il est à 3878 euros. Ça fait 7 ans maintenant que les prix augmentent chaque année. Et là, on a atteint des prix records de prix mètre carré.
L'année de tous les records dans l'immobilier. Les mots sont de Laurent Vimon, le patron du réseau Century 21. En termes de prix notamment, comme le rappelait cette pastille de BFM, mais aussi en termes de transactions. Les raisons sont connues. La crise sanitaire a donné aux Français des envies de changer d'air dès la fin du confinement, avec un attrait remarqué pour la maison avec jardin ou l'appartement avec un espace extérieur. Pour beaucoup, c'était un peu la quête du Graal, notamment sur les côtes françaises.
Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal.
Ne restait plus alors qu'à trouver un crédit immobilier, une quête relativement simple, mais qui pourrait bien se compliquer en 2022. Bonjour Gabriel Nedelec.
Bonjour Pierrick Fay.
Vous êtes journaliste au service finance des Échos. Le marché immobilier a connu une année frénétique. Ça a aussi été le cas pour le crédit immobilier ?
Effectivement, ça a été le cas pour le crédit immobilier de façon assez impressionnante puisque l'année 2021 a atteint un record de production en France. On parle de 273 milliards d'euros de nouveaux crédits. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est essentiellement dû à des nouvelles transactions, des nouveaux achats et pas à des renégociations de crédit, comme ça avait pu être le cas en 2017, quand les taux avaient commencé à baisser. Donc on est un record de production, mais on est aussi un record de nombre de transactions, puisqu'on a dépassé 1,2 million en 2021.
Comment est-ce que les professionnels expliquent une telle santé de ce marché ?
Il y a différentes raisons. D'abord, c'est évidemment une question de taux qui donne de l'appétit aux particuliers. Les taux sont très très bas. La moyenne en 2021, c'était 1,14. C'est historiquement le taux le plus bas jamais connu. Il y a beaucoup de liquidités, les banques sont pleines de liquidités, donc elles ont besoin de trouver des manières de prêter, donc elles poussent ce produit-là, le crédit immobilier. Et le dernier point qui explique la bonne santé de ce marché, c'est que le crédit immobilier, ça reste un produit d'appel pour les banques, un produit qui leur permet de capter des nouveaux clients. Or, les autorités ont récemment encadré l'octroi de crédit, donc ça a réduit le profil des gens qui sont en capacité de prendre un crédit immobilier. Donc, la concurrence est très forte et elles poussent encore plus leurs offres sur ce marché-là.
Il y a aussi une remarque intéressante de Ludovic Usieux à la tête d'Artemis Courtage, cité dans les Échos. Pour lui, le dynamisme du crédit immobilier vient notamment du sentiment d'éloignement du risque de crise économique qui aurait pu être l'une des conséquences de la pandémie. Mais je voudrais revenir sur un point intéressant, Gabriel. Vous le disiez, le taux d'intérêt des crédits immobiliers, il est tombé en moyenne à 1,14% l'an dernier. Il ne cesse de baisser depuis plusieurs années. Et pas que pour les États, hein, c'est bon aussi pour les entreprises, les particuliers. Mais à ce niveau de taux, les banques arrivent à faire de la marge, à gagner de l'argent ?
Elles arrivent effectivement à gagner de l'argent, d'une part parce qu'elles se financent d'abord à taux négatif auprès de la Banque Centrale Européenne, ce qui leur permet de continuer à gagner avec un taux très très bas. Mais en plus, qui dit crédit immobilier, dit une relation avec un client d'au minimum en moyenne environ 8 ans et avec d'autres produits qu'on peut leur pousser, des produits d'épargne, d'autres types de crédits. Enfin voilà, il y a tout un écosystème autour qui leur permet de faire de l'argent autour du crédit immobilier, ce qui en fait un produit très important pour elles.
Et on voit que ça tourne à plein régime. Est-ce que c'est un phénomène que l'on retrouve partout en Europe?
C'est effectivement un phénomène qu'on retrouve partout en Europe. Les prix ont augmenté de 6% à peu près partout dans la zone euro. La production est aussi record dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne. Mais ça va même au-delà. On retrouve ce phénomène de production très forte aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, on a connu une production aussi complètement historique. L'endettement des ménages a dépassé le seuil symbolique des 15 000 milliards, dont 10 700 milliards rien que pour le crédit immobilier. Les prix ont aussi très fortement augmenté. On est à plus 20% sur l'année. Et le nombre de transactions est aussi record. On est à 6 millions, ce qui est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2006.
Et on le voit, il y a une frénésie sur les marchés immobiliers. En France aussi, on en parle. Les prix immobiliers ont augmenté, notamment en région. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans la story. C'est une des conséquences de la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'une surchauffe du marché et du crédit immobilier ?
Alors, si on en croit les différentes autorités internationales de contrôle, je ne sais pas si on peut parler de surchauffe, en tout cas, elles ne parlent pas encore de surchauffe, mais elles se montrent particulièrement vigilantes et elles trouvent que ces marchés-là sont particulièrement exubérants. Ce qui les inquiète particulièrement, c'est la hausse des prix et le nombre de transactions qui se rapproche des records qu'on a connus juste avant la crise financière de 2007, ce qui donc a de quoi un petit peu les inquiéter, même si par exemple aux États-Unis, les autorités se rassurent puisqu'elles disent que les subprimes, ce sont ces prêts qui avaient été offerts aux ménages modestes et qui avaient provoqué la crise de 2007, ces subprimes ne sont pas à un niveau alarmant. Si on en croit les banques classiques, en tout cas en France, elles sont clairement pas du tout inquiètes par le niveau de production et elles ne cessent de répéter que le modèle à la française est très solide et pas inquiétant. Il n'y a pas de risque pour la stabilité financière.
Après, j'ai 4 fils. Un fil jaune, 3 fils noirs, un fil rouge, un fil blanc, il y a 6 fils. Attends, ça va exploser.
La Banque de France se dit aujourd'hui plus inquiète de l'exubérance persistante de certaines valorisations boursières que de la capacité de remboursement des acteurs financiers. La bulle immobilière ne semble pas prête d'exploser, si tant est qu'on puisse parler d'ailleurs d'une bulle. Mais alors Gabriel, pourquoi dans ces conditions les autorités prudentielles veulent-elles freiner le crédit immobilier en France ?
Les autorités prudentielles veulent freiner le crédit parce qu'elles ont vu des signaux de dérapage à la fin de l'année 2019. La Banque de France voyait les durées de prêts atteindre des niveaux records et des niveaux d'endettement dépasser des seuils raisonnables, ce qui les a poussés à prendre un certain nombre de mesures par le biais du Haut Conseil de Stabilité Financière qui visait à encadrer ce crédit. Et donc aujourd'hui, les banques ne sont plus autorisées à dépasser 35% de taux d'effort. Le taux d'effort, c'est le loyer, en tout cas le remboursement de crédit que payent les ménages chaque mois par rapport à leurs revenus. Et les prêts ne peuvent pas dépasser 25 ans. Les banques ont ensuite une marge de 20% pour déroger à ces règles, mais globalement, elles ne doivent pas dépasser ce taux d'effort et cette durée.
Ce bien de 100 mètres carrés est affiché à 400 000 euros. Pour l'acheter et obtenir un prêt immobilier, Melvin doit avancer 10% de cette somme, soit 40 000 euros. Un montant conséquent qui n'était pas au programme, mais les règles ont changé.
Les règles ont changé, c'est ce qu'on entend dans ce reportage de LCI. Les décisions du Haut Conseil à la stabilité financière qui associe le ministère de l'économie et la Banque de France notamment, ces décisions sont effectives depuis le 1er janvier 2022.
Parmi les mesures, il y a donc la volonté de limiter à 25 ans la durée des prêts immobiliers. Gabriel, pourquoi cette fermeté concernant la durée des prêts ?
Cette fermeté concernant la durée des prêts, elle est liée au fait que plus un crédit est long, plus il y a le risque de faire défaut pour un ménage, puisqu'il peut arriver des accidents de la vie à différents moments, et donc plus le temps sur lequel court le prêt est long, plus il y a de risques d'accident.
C'est vrai qu'en réponse à la hausse des prix de l'immobilier, les banques avaient pris l'habitude de proposer des allongements de durée. Fin 2020, la durée moyenne approchait 235 mois, c'est près de 20 ans. Comment les banques ont-elles réagi alors que le crédit immobilier, c'est souvent, vous le disiez, un outil de conquête de clients ?
Elles ont d'abord réagi en freinant un peu des cas de fer, surtout en coulisses, parce que justement, elles voyaient ça comme un frein à un marché qui était assez porteur pour elles et dont elles avaient besoin pour capter des clients. Finalement, elles ont été un peu contraintes de s'y conformer et aujourd'hui, elles sont plutôt rentrées dans le rang et la plupart suivent les règles du Haut Conseil de stabilité financière. A fortiori depuis le 1er janvier, puisque les mesures, les contraintes du Haut Conseil de stabilité financière sont devenues contraignantes. Et donc peuvent être sanctionnés par les autorités.
Ouais, quel type de sanction ?
C'est pas très très clair, ça n'a pas été exactement défini, on imagine que ce sont des amendes, mais ces sanctions passent aux mains, en tout cas la définition de ces sanctions passe aux mains de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et pour l'instant aucune banque n'a été sanctionnée, donc on ne sait pas ce qui est prévu, et les textes ne le prévoient pas explicitement.
Les banques conservent donc le pouvoir d'accorder le crédit, mais elles sont un peu plus sous surveillance dans un contexte de tension immobilière. Le souvenir de la crise financière de 2008, née dans l'immobilier aux États-Unis, a laissé des traces chez les banquiers centraux. En 2022, sera-t-il alors plus compliqué d'obtenir un prêt ? C'est la question que j'ai posée à Anne-Sophie Vion, du service patrimoine des Échos.
Je dirais oui et non, car en réalité, les banques ont déjà anticipé depuis plusieurs mois l'application des nouvelles normes du HCSF. Pour rappel, l'emprunteur ne doit pas s'endetter au-delà de 25 ans, 27 ans pour un achat sur plan, et il ne doit pas avoir de mensualité supérieure à 35% des revenus, assurance emprunteur comprise. Or finalement, comme on le voit avec les records de production de crédit, les ménages ont pu dans l'ensemble continuer à emprunter dans de bonnes conditions et à des taux planchers. Mais comme ces recommandations s'imposent aux banques depuis début janvier sous peine de sanctions, on peut en effet imaginer que ces critères plus stricts vont être largement appliqués, notamment en termes d'endettement maximum. Et donc un dossier de crédit immobilier, surtout s'il est mal ficelé, peut très vite, en tout cas, plus facilement qu'il y a quelques mois, être refusé. Alors c'est vrai aussi que les banques ont une marge de manœuvre qui concerne 20% de leur production de crédit, pour sortir du cadre. Pour autant, il y a des spécialistes du crédit qui témoignent que des typologies d'acheteurs commencent à être évincées. En plus, on a des prix immobiliers qui continuent de grimper. Donc, ces catégories évincées, c'est le cas des jeunes, les fameux primo-accédants aux revenus faibles, mais pas seulement. Cela fait aussi des mois que l'on parle des difficultés de ménages aisés, qui ont déjà un emprunt pour leur résidence principale et qui veulent soit faire un investissement locatif ou acheter à crédit une résidence secondaire. Or, quand on est déjà endetté sur sa résidence principale, la limite de 35% est vite atteinte.
La Banque de France se défend pourtant de couper l'accès. Alors, on pense plutôt d'ailleurs aux ménages modestes pour le crédit immobilier, bien sûr, qu'à ceux qui veulent s'acheter une résidence en Bretagne.
Alors, ce qui est vrai, comme on le voit dans les derniers chiffres du crédit logement et qui passe en revue l'ensemble du marché, c'est que les banques ont en fin d'année davantage baissé leurs taux sur les prêts les plus longs. Or, ces prêts s'adressent le plus souvent aux emprunteurs les moins bien dotés en apport personnel. Les banques veulent ainsi préserver l'accès au crédit des primo-accédants. L'allongement de cette durée moyenne des prêts, elle permet d'absorber les conséquences de la hausse des prix des logements et aussi de contenir les taux d'effort sous le seuil des 35%, ce qui, in fine, aide ces ménages modestes. Cependant, là aussi, des courtiers observent qu'en raison de cette accélération de la prise en compte des critères du HCSF, les primo-accédants, les moins fortunés, sont en baisse. Les prêteurs y donnent encore plus qu'avant la prime aux situations installées, au salaire et à un apport personnel plus important. On peut aussi noter dans les chiffres du crédit logement que pour la première fois en novembre, la durée moyenne des prêts tout confondu a atteint 20 ans, soit une hausse de 7 mois sur un an. Autrement dit, même si on n'est pas encore à la butée d'un emprunt sur 25 ans, la marge de manœuvre pour les primo-accédants modestes se réduit.
Oui, Anne-Sophie, ça c'est vraiment la conséquence de la hausse des prix ?
Oui, d'une certaine façon, c'est lié à cette augmentation un peu partout sur le territoire. Et comme on l'a vu, les ménages français sortent de l'achat des grandes villes. Ils sont allés acheter un peu partout et à des prix qui, du coup, enflent. Et ces ménages modestes qui pouvaient encore acheter, du coup, se retrouvent coincés.
Ceux qui obtenaient des dérogations, hein, c'était évidemment les plus jeunes, les primo-accédants, les plus modestes, mais avec quand même des situations professionnelles stables, mais qui, dans la plupart des cas, n'ont pas ou très peu d'épargne et qui, du coup, peuvent pas les puiser dedans pour aller finalement réaliser leur projet.
On entend ici Maëlle Bernier de Meilleur Taux, interrogée par Carole Ferry sur Europe 1. Elle évoquait les difficultés de certaines catégories d'épargnants. Century 21 a aussi constaté qu'à Paris, et il n'y a plus que les cadres et les retraités qui peuvent acheter compte tenu des prix, il représente 83% des ventes. Certains courtiers s'interrogent sur l'aspect politique de cette décision. Il s'agirait de freiner l'accession des jeunes à la propriété pour les rendre plus mobiles sur le marché du travail, mais aussi pour les pousser à investir ailleurs, notamment dans les entreprises. Anne-Sophie, on le sait, les Français adorent la pierre un peu trop.
Les Français aiment l'immobilier et dans cette période tourmentée, la pierre les rassure. On a vu que l'année 2021 allait probablement encore se terminer sur un nouveau record de ventes à près de 1,2 million d'unités. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Pas sûr. On pourrait même penser qu'au contraire, les ménages ont bien compris l'importance de l'actif immobilier en matière de qualité de vie et en matière de protection patrimoniale, notamment avec l'allongement de leur espérance de vie, la nécessité de préparer sa retraite et de s'y retrouver avec un toit sur la tête. Et de ce point de vue, investir dès que possible est recommandé. Alors, on peut se demander aussi, est-ce qu'on achète trop cher ? Oui, c'est le cas à Paris, dans sa banlieue, et aussi dans quelques quartiers de grandes villes régionales, comme à Lyon. Mais Paris n'est pas la France, et pour plus des deux tiers des achats dans l'ancien, on est encore à moins de 3 000 € le mètre carré. Alors, est-ce que les ménages sont aussi en risque quand ils empruntent ? Comme on l'a vu, les autorités veillent au grain et l'accès au crédit qui est déjà très encadré se resserre un peu plus encore. Enfin, on dit qu'investir dans la pierre, ce n'est pas productif versus placer son argent dans des entreprises, cotées ou non cotées, mais c'est méconnaître le poids économique de l'ensemble du secteur. Quant aux jeunes, cela va être compliqué de les détourner de l'immobilier. On a vu un récent sondage de la FNAIM où on apprend que 85% des 18-30 ans estime qu'il est plus économique d'être propriétaire de sa résidence principale. 14% sont déjà propriétaires et parmi les non-propriétaires, plus de 8 sur 10 considère le fait de devenir propriétaire comme important.
Et ça, c'est intéressant. On verra effectivement quelles seront les conséquences de ce durcissement des conditions d'obtention des prêts décidés par la Banque de France. Est-ce que déjà on peut craindre que ça puisse avoir un impact sur la vitalité du marché, sur le nombre de transactions et pourquoi pas sur les prix, notamment à la baisse?
Alors, effectivement, le crédit immobilier, c'est la clé de voûte du marché. Donc, si les difficultés d'accès au crédit se renforcent, le marché pourrait en effet ralentir. C'est ce que l'on voit déjà, mais en réalité, ce n'est pas l'effet crédit, mais davantage celui d'une raréfaction de l'offre. Quant à l'idée que les prix pourraient sensiblement baisser, alors sauf si les taux remontaient brutalement, et dans la mesure où cette demande reste bien supérieure à l'offre, et ça dans de nombreux endroits sur le territoire, ce n'est pas l'hypothèse centrale de la plupart des experts du secteur.
Mais on manque de logements. Cette idée également des taux d'intérêt qui pourraient remonter, on voit que l'an dernier, les Français ont pu emprunter en moyenne à 1,14%. C'est extrêmement bas, plus bas encore qu'en 2019 ou 2020. Dans ce contexte, justement, les taux d'intérêt vont-ils remonter, Anne-Sophie ?
Alors, toute l'année dernière, c'est vrai, on a agité le chiffon de la remontée des taux. En réalité, à l'exception de quelques petites poussées de fièvre, les taux ont encore enfoncé des plus bas. Alors, la hausse de l'inflation et la remontée des taux obligataires à 10 ans ont été jusque-là peu répercutées sur le coût du crédit. En plus, il y a un autre facteur de soutien, c'est que les banques affichent toujours en ce début d'année une très forte envie de faire du crédit immobilier. Elles ont des objectifs commerciaux élevés. En plus, elles sont dans une situation de surliquidité du fait de l'épargne Covid des ménages et elles doivent redéployer ces liquidités sous forme de crédit, sinon elles perdent de l'argent. Cela étant, dans cette ambiance inflationniste et de politique moins accommodante des banques centrales, on peut en effet tabler sur une remontée des taux, mais elle devrait être très progressive. Pour l'heure, les premiers baromètres de janvier montrent que globalement, les taux se stabilisent, voire dans certains cas, baissent encore.
Ah, et pour l'instant, aucun courtier n'a constaté de remontée des taux. Hein.
Non, c'est vraiment quelques petites banques de ci, de là. La tendance est vraiment à un statu quo.
Merci Gabriel Nedelec du service Finance des Échos. Merci Anne-Sophie Vion du service Patrimoine. Vous pouvez retrouver les analyses sur l'immobilier, les placements, le marché de l'art, sans oublier la fiscalité, tous les vendredis dans les pages des Échos et tous les jours sur l'onglet patrimoine des échos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, d'Apple Podcast à Castbox, en passant par Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Podcast Addict.